et bienvenue pour cette nouvelle semaine de la Grande Table avec, pour commencer, la Grande Table des idées à partir de 12h55, transhumanisme, post-humanisme et l'humain dans tout ça. Ils analysent les promesses des promoteurs de l'homme amélioré et l'illusion créée, mais aussi notre fascination signe d'époque. Le mathématicien Olivier Rey et le philosophe Marc Ougnati sont nos invités à retrouver après le journal de Thomas Cluzel à partir donc de 12h55. Mais d'abord, la fureur de peindre à l'occasion de l'exposition Jean-Michel Basquiat et Gunshill à la Fondation Vuitton, à voir jusqu'au 14 janvier. Nos deux invités, Roxana Azimi, journaliste et critique d'art au Monde, et Pierre Ducrozet, écrivain, l'auteur d'Héroïca chez Grasset, nous parlerons de ces deux trajectoires. On est ensemble jusqu'à 12h30. Vous écoutez France Culture. Vous pourrez également réécouter l'émission sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
8 ans après la grande et belle rétrospective que le Musée d'Art Moderne avait consacrée à l'enfant de Brooklyn à l'occasion du 50e anniversaire de sa naissance, le révélant littéralement au grand public français, plus de 350 000 visiteurs, la Fondation Vuitton met à son tour Jean-Michel Basquiat à l'honneur en le frontant, en le confrontant à une autre comète de l'art, le peintre autrichien Egon Schiele. Même feu sacré, même génie précoce, même destin foudroyé, morts tous deux à 27-28 ans, Basquiat d'une overdose, Schiele décide par la grippe espagnole. Bonjour Roxana Azimi.
Bonjour Olivia.
Merci d'être avec nous. Journaliste spécialiste d'art contemporain au Monde et son magazine M. Vous signez d'ailleurs un Basquiat avant l'envol dans le dernier numéro. Auteur par ailleurs d'un guide Azan de l'art contemporain paru donc aux éditions Azan. Juste un mot d'abord de l'intention et de la scénographie de cette exposition. Le rapprochement de Basquiat et de Schiele, c'est une idée de Suzanne Paget, la directrice artistique de la Fondation. Est-ce qu'elle vous semble pertinente? En gros, est-ce que ça apporte quelque chose de les mettre ensemble tous les deux?
Alors l'idée est très très pertinente puisque, comme vous l'avez très justement dit, ce sont deux artistes qui ont à 60 ans d'écart, enfin, plus d'un demi-siècle d'écart en tout cas, un parcours qui peut être assez similaire, c'est-à-dire sont deux artistes qui ont été fauchés en plein vol alors qu'ils semblaient au fait de leur gloire. Ce sont deux artistes qui étaient en colère. Ils avaient une même rage, l'un contre une société austro-hongroise très corsetée, l'autre dans une Amérique qui ne reconnaissait pas la diversité. Et être noir dans ces années-là aux États-Unis, ça n'allait pas de soi. Bon, ils ne sont pas morts pour des mêmes causes, mais je pense qu'effectivement c'était une très bonne idée de les confronter. Ce qui est un peu dommage, c'est que la confrontation ne soit pas allée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a affaire à deux expositions juxtaposées plutôt qu'à une vraie confrontation, un vrai dialogue qui
pourrait avoir... Il n'y a pas de dialogue entre les œuvres.
Pas du tout, il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire vous faites... une première exposition, une deuxième exposition. Alors, vous avez effectivement le phénomène de rémanence, d'écho qui peut agir hein, selon la disponibilité des visiteurs. Mais une exposition les confrontant, en mettant certaines œuvres en parallèle, aurait été encore plus intéressante, me semble-t-il.
Avec nous également le romancier Pierre Ducrozet, l'auteur de L'invention des corps chez Actes Sud l'an passé, auteur aussi d'Héroïca, sorti chez Grasset en 2015, réédité en poche aujourd'hui, une bio romancée de Jean-Michel Basquiat, DJ dans le roman. Héroïca, comme le nom donné par Basquiat à l'un de ses diptyques. Pierre Ducrozet en exil heureux à Barcelone, d'où vous nous parlez. Bonjour.
Bonjour.
En direct de la radio Catalogna. Merci à nos confrères de vous accueillir. Plus d'une centaine d'œuvres de Basquiat dans cette exposition à la Fondation Louis Vuitton, dont le triptyque Head, trois têtes hurlantes pour la première fois réunies. Et autre rareté, Riding with Death, réalisé en 88, l'année de sa mort, où un cavalier chevauche un squelette. Quelle pièce avez-vous découvert ou redécouvert, vous, Pierre Ducrozet, qui avez beaucoup travaillé sur Basquiat, ses toiles, son œuvre, à l'occasion de l'écriture de ce roman, Héroïca. Quelles sont pour vous les forces ou les faiblesses de cette exposition?
Ce qui était très émouvant pour moi, c'est que je les ai vus, je les ai regardés dans les reproductions, mais c'était la première fois pour la plupart que je les voyais en vrai, puisqu'elles sont dans des collections privées pour la plupart. Donc c'était très beau et je retiens Head, bien sûr, ce triptyque au début de l'exposition, très impressionnant, et la fin, Héroïca peut-être en 87, pour plein de raisons qui m'ont conduit à écrire ce livre. C'est ce goût de l'héroïsme de Basquiat. C'est ce garçon qui s'est vu comme un héros, qui s'est vécu comme un héros, qui a surmonté toute une série d'obstacles pour finalement gagner la partie. À mon avis, c'est la grande clé de cette exposition, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il a gagné. Et Heroica aussi, parce que c'est toute cette œuvre rhizomique de Basquiat, tout ce savoir qu'il organise, ce chaos brûlant, comme il l'appelle, qu'il organise et qui réordonne dans ses œuvres, et on voit ça dans Heroica. Il y a cette volonté de faire rentrer tout le monde entier dans sa toile, tout le savoir, depuis Malcolm X jusqu'aux usines de baseball, jusqu'à César, Elvis. Il organise tout ce chaos qu'est la réalité. Et il en fait quelque chose de puissant, de brillant.
Alors Heroica, peut-être juste nous raconter cette toile avant d'avancer. C'est aussi une toile presque annonciatrice. Alors, c'est toujours facile de relire ça après coup, de 87-88. Une toile où l'héroïsme que vous évoquiez se meurt. Hein. Le mot est écrit plusieurs fois et raturé à trois reprises, barré même une fois d'une grande croix.
Oui, c'est ça.
Pierre Ducrozet. Je crois qu'on vous a perdu. On reviendra donc à la description de cette toile Heroica qui a donné le titre à votre roman Pierre Ducrozet. Beaucoup d'autoportraits, Roxana, dans cette exposition, d'un côté comme de l'autre. C'est assez intéressant de voir comment l'un comme l'autre, Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele, se représentaient. Basquiat avec ses dreads, ses yeux rouges encerclés de blanc, son sourire large, figé. Sa couronne, son sourire figé, comme un robot, et Schiele, le cheveu en pétard, le regard un peu de haut, sceptique, sourcils froncés. Il scrute son regardeur, hein, Egon Schiele. Hein.
Les deux artistes scrutent leur regardeur. Alors, l'autoportrait, c'est un genre de l'histoire de l'art très classique. Donc, ce n'est pas étonnant que ces deux artistes les pratiquaient comme tant d'autres avant eux et après eux. Mais c'est vrai que ces autoportraits en disent long, évidemment, sur leur personnalité, parce que ce n'est pas juste un exercice, pas comme Rembrandt, un exercice de style sur le vieillissement. C'est vraiment rendre compte d'une rage intense, en fait. Et ce qui est frappant dans les deux autoportraits, c'est cette rage qui sort. Elle ne sourd pas, elle sort. Elle explose.
Et qu'est-ce qui provoquait cette colère? Basquiat, il peint aussi comme un enfant, mais un enfant torturé, presque un peu dément. Cette colère, elle est originelle presque avec lui.
Oui, je pense que quand vous avez une mère qui a été internée à plusieurs reprises, quand vous avez un père plutôt violent, quand vous vivez dans une société où la diversité culturelle n'était pas encore inscrite, ou pour avoir accès aux galeries, au monde de l'art, il n'avait pas forcément la bonne couleur de peau. Ce n'est pas... Oui, vous êtes en colère. Vous êtes forcément en colère. Et puis, New York, dans ces années-là, était aussi une ville très violente. Ce n'était pas le New York qu'on connaît aujourd'hui. C'était un New York, surtout les quartiers qu'il fréquentait, le Lower East Side... Ces quartiers-là, c'était pas du tout Boboland comme ça l'est aujourd'hui. C'était des quartiers, les rues étaient jonchées de seringues, tous les bâtiments étaient graffités, c'était des lieux de règlement de compte, c'était des lieux vraiment dangereux.
Mais donc, lui, il vient d'un milieu qui est quand même plutôt aisé.
Il vient d'un milieu petit bourgeois de Brooklyn, mais Brooklyn qui, à nouveau, n'était pas le Brooklyn d'aujourd'hui. Effectivement, ses parents vivaient dans une belle maison, son père était comptable. Cette rage, je pense que cette rage, elle vient quand même de ne pas, peut-être de ne pas avoir pu sauver sa mère. Peut-être.
Et une mère qui, quand il était plus petit, l'emmenait régulièrement au musée. On retrouve vraiment dans ses toiles, et on va en parler, une culture très très large et des influences multiples du jazz, qui était là la référence paternelle, avec présent à plusieurs endroits, soit le saxophoniste Charlie Parker, soit Lester Young, dans notamment la toile In the Wings. Le hip-hop aussi, le graffiti, par par lequel il était passé. On voit aussi des références à la Bible. Ça, c'est plutôt la mère qui l'avait entraîné de ce côté-là, à la littérature classique, la boxe, très importante aussi pour lui. Une culture qui est vraiment très large et qui va aussi du jazz à Beethoven concernant la musique et le classique. Il était sauvage, disait-on, Jean-Michel Basquiat, et angoissé et en même temps ambitieux. Il voulait devenir quelque chose. Il avait peur aussi qu'on lui tourne le dos. Écoutez.
C'est juste que j'aime essayer de... Enfin, j'essaye de rester un peu solitaire et de ne pas être juste là, tu vois, d'être encensé puis rabaissé comme ils le font à la plupart des autres personnes.
Oui, parce que des fois, ils peuvent te tourner le dos.
Ils le font constamment. Il n'y a pas une personnalité importante à qui ils ne l'ont pas fait.
Ils t'ont tourné le dos ?
Ici et là.
Voilà, Jean-Michel Basquiat mort à 28 ans. Pas beaucoup d'interviews de lui ou des interviews très courtes. Il était un peu timide, ce qui est normal aussi à cet âge-là. Pierre Ducrozet, si on vous a retrouvé, vous évoquez cette ambition, ce besoin d'héroïsme. Le garçon a toujours voulu être un héros, écrivez-vous. C'est même la définition d'un garçon, quelqu'un qui n'a enterré ni son supposé génie, ni son supposé héroïsme, comme le font les gens dès que tombent les premières feuilles. Plus loin, vous écrivez, retranscrivez un dialogue imaginaire entre lui et Alexis, sa copine d'antan. « Tu veux quoi en fait ? Être un héros ?» lui répond-il. « Comme Batman, parce que l'histoire m'y oblige. » Il n'y a aucune sortie prévue pour un nègre de mon espèce, esclave ou héros, mort ou héros, rien d'autre. Imaginez-vous dans ce dialogue entre les deux, Pierre Ducrozet,
oui.
Sur l'héroïsme de Basquiat.
C'est ce qui me touche le plus peut-être, c'est qu'il est à la fois cet enfant qui rêve de Superman et qui va être Superman, qui se sait plein de super pouvoirs, et en même temps c'est un vieux sage. On le voit dans cette exposition qui est brillantissime. Il maîtrise parfaitement les codes, il les déconstruit. C'est l'analogie avec Rimbaud est très bonne, puisque dès 15 ans, il maîtrise l'ensemble des codes et il va les déconstruire. Donc c'est cette alternance constante de deux flux qui me passionne chez lui. Donc ce petit garçon qui lit les Marvels et qui rêve devant Elvis, et en même temps ce grand maître à 20 ans, voilà, il sait, il a compris Picasso et il va atteindre ce niveau-là. Moi, c'est ce que j'ai vu dans cette exposition, c'est la maîtrise absolue, il y a quasiment pas une erreur, tout est à sa place, les couleurs éclatent, la composition est parfaite. J'ai l'impression que le vernis de légende auquel il a même lui-même participé, on le voit de moins en moins, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est la parfaite maîtrise de l'art pictural.
Le peintre écorché vif, rebelle, Egon Schiele l'était aussi. En ce sens-là, l'analogie fonctionne, celle qu'opère l'exposition actuellement à voir à la Fondation Louis Vuitton. Il va à l'encontre des codes artistiques de l'époque, hein, Egon Schiele. Il est aussi contre l'académisme ambiant, Roxana Azimi. Hein.
Oui, il est effectivement contre l'académisme ambiant. Il puise ses inspirations dans des sujets qu'on ne représentait pas. C'est représenter des nus féminins, mais masculins aussi, comme il le faisait. C'est ce qui est d'ailleurs frappant dans l'exposition. C'est, on parle toujours des nus féminins des artistes, mais les nus masculins sont exceptionnels chez Schiele. Donc représenter des sujets qui ne sont pas du tout acceptés par la bonne société tels qu'il le faisait, c'était effectivement très, très audacieux.
Pierre Ducrozet, il fait rentrer le monde entier dans sa toile, dites-vous, de Jean-Michel Basquiat. Mais quel regard est-ce qu'il portait sur ce réel qui l'entourait, sur la violence notamment? Et comment il a retranscrit ça dans ses tableaux, dans ses toiles? Est-ce qu'il s'est construit son propre monde?
Il est sans cesse blessé par cette violence, par ce racisme, par ce déni, et elle va rentrer dans cette toile par cette rage, dont on parlait à propos de Schiele, qui est là aussi chez Basquiat. Ça explose, ça pétarade. C'est comme ça que la violence rentre, et petit à petit il l'assimile, il la fait sienne, et elle devient ce chaos ordonné. Donc c'est ce double mouvement là qui est là à l'œuvre dans la violence, et il va devoir effectivement faire avec. Et je crois que c'est pour ça que je dis qu'il gagne la bataille, c'est que petit à petit, il joue les codes, il joue avec les codes du marché de l'art, mais petit à petit, il n'est pas dupe, il sait ce qu'il en fait.
Vous évoquiez tout à l'heure, et on n'a pas eu le temps de terminer, l'exploration de cette toile Heroica. On pourrait en citer une autre, CPRKR, pour Charlie Parker. C'était ce qui se produisait sur un certain nombre de ses tableaux. Il mange les voyelles des noms. Hein. Pourquoi ?
Pourquoi il les barre souvent pour qu'on les voit, c'est ce qu'il dit. Hein. Souvent, il barre les mots, il barre les lettres pour qu'on les remarque. Et là, il concasse, en fait, en quelque sorte, Charlie Parker, un de ses maîtres. Il en fait un tombeau. C'est une des toiles. Enfin, c'est pas une toile, c'est un des tableaux les plus émouvants peut-être. Il en fait, il veut le faire rentrer en fait au musée. Il veut le faire rentrer dans la grande histoire de l'Amérique. Et il fait ça avec beaucoup de héros noirs oubliés de l'Amérique. Et on voit bien l'émotion au moment de peindre, et aussi Charles the First qui est juste à côté. Il y a toute cette salle là sur la musique qui est très belle. Il fait rentrer ses héros noirs dans ses tableaux et dans son histoire. Et aussi, ce que vous l'avez dit, il est musicien. Il est vraiment, c'est vraiment un musicien. C'est-à-dire qu'il est fils du bebop. Il annonce le hip-hop. Il participe d'ailleurs à sa naissance. Aussi à l'électro, il scratch, il mixe. Il fait tout ça à la fois en étant totalement peintre. Il est bien sûr un poète aussi. Cette correspondance entre les arts est aussi très, très impressionnante.
Oui, il a fait un temps aussi partie d'un groupe avant de se consacrer entièrement à la peinture. Dans toutes ses toiles, il convoque donc un certain nombre de ses héros, de Cassius Clay à Charlie Parker, des icônes noires, des fiertés noires aussi, hein, pour exprimer cette colère qu'il a face à la non-reconnaissance aussi des siens à cette époque-là particulièrement. Les violences policières, il y en avait aussi, dont celle de ce graffeur qui a été tué, assassiné par la police et qui fera l'objet de plusieurs toiles. Basquiat, donc, aujourd'hui exposé à la Fondation Louis Vuitton. Roxana Azimi, comment le corps, la tête, a-t-il pris une telle importance pour lui? Pourquoi est-ce qu'il s'attache en permanence à disséquer les corps, à les déformer?
Alors, il était tombé enfant sur un manuel d'anatomie à l'hôpital. Il avait 7 ans. Et ce manuel qui précisément décortiquait tous les membres du corps, tous les organes, l'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et après, effectivement, ces tableaux sont envahis de corps qui semblent déchiquetés, de corps en mouvement, parce que lui-même est aussi un être en mouvement. C'est pas quelqu'un qui tient sur place. Le corps, c'est le sien. C'est aussi un corps plus universel. C'est le corps de l'homme noir aussi. Donc, cette représentation allait un peu de soi.
Face au corps des Gonchil, qui lui est plus squelettique, sec, plus anguleux.
C'est un corps décharné, c'est un corps noueux, c'est un corps qui est en tension aussi. C'est un corps différent, mais en fait, dans les deux corps, il y a une tension assez similaire. Ce sont deux corps tendus, ce sont deux êtres tendus, ce sont deux êtres tendus comme des arcs, hein, quelque part.
La question du corps et celle du réseau, Pierre Ducrozet, qui était au cœur aussi de votre dernier roman, L'invention des corps, et qu'on voit donc déjà avec Basquiat dans Heroica, sa perception du corps, vous la voyez comment, ces corps de Jean-Michel Basquiat ?
Ce qui est très beau dans l'anecdote que vous racontiez, là, à 7 ans, il découvre effectivement Grey's Anatomy. Il le découvre comment? Quand, au réveil, en fait, il a eu un accident de voiture et il a une ablation de la rate. Et au réveil de cette opération, sa mère lui offre Grey's Anatomy. Et il est fasciné par ce corps qu'il voit devant lui, qui est dans le livre, qui est entier, reconstruit, déformé, alors que le sien vient de subir un traumatisme. Et il a dès lors un creux, moi c'est ce que j'imagine, il a un creux qu'il va essayer de remplir avec tout ce qu'il peut. Et dans ses toiles, on voit bien, il essaye de faire tenir le corps ensemble. Il y a des bouts de corps comme ça, et il essaye de rassembler les éléments. Dans Head aussi, d'ailleurs, on voit comment il essaie de rentrer dedans. Il est fasciné par l'anatomie, ça traverse toute son œuvre. Et moi, je vois ça comme ça. Voilà, c'est ce désir de faire enfin tenir les choses ensemble. Et ce creux va finalement avoir sa peau. C'est ce qui, voilà, il a un trou. Et oui, effectivement, c'est très amusant que vous souligniez ça. Le corps et le réseau, c'est les deux thèmes que moi j'avais vus chez Basquiat, enfin, qui me passionnaient le plus et qui m'ont en fait, en quelque sorte, lancé dans la suite, dans le roman d'après, et même et même la suite. En fait, j'ai découvert en lui un peu mon maître en écriture.
Et lui avait découvert chez Andy Warhol son maître en peinture à l'époque, dans les années 80. Basquiat, c'est donc une naissance en 1960 et une mort précoce en 1988. À l'époque, on le voyait comme un artiste, un peintre pop, néo-expressionniste, un peu cool. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on redécouvre aussi son œuvre en y mettant plus de profondeur. Je vous propose d'écouter un extrait du film du réalisateur Julian Schnabel, qui avait consacré un film à Basquiat en 1996. Il était incarné par Jeffrey Wright, et Andy Warhol, c'était David Bowie qui le jouait. Là, on va écouter la rencontre dans un restaurant entre Jean-Michel Basquiat et un journaliste. C'est dans une galerie. Et l'extrait est en VF, please.
Ça là, c'est des parasites.
Puces, parasites. Et les deux chiffres là, 46 et 47.
C'est des sangsues. C'est des numéros. C'est les numéros sur une liste, 46 et 47, sur des milliers de sangsues qui sont sur la planète.
Mais quelle est la différence entre les trois?
Entre les puces, les parasites et les sangsues? Pratiquement aucune.
Et pourquoi vos personnages sont-ils dessinés d'après si grossier?
Parce que la plupart des gens sont plutôt... Ils sont plutôt grossiers. Des gens vraiment raffinés, j'en connais pas beaucoup.
Vous êtes un peu un expressionniste primal, pour ainsi dire.
Un primate, vous voulez dire? Genre chimpanzé?
Est-ce que vous vous considérez comme un peintre black?
J'utilise toutes les couleurs, même le blanc.
Alors aujourd'hui, on garde quel qualificatif pour définir la peinture de Jean-Michel Basquiat, Roxana Azimi?
Expressionniste, c'est un qualificatif qu'on garde toujours. Hein. C'est une peinture, et d'ailleurs c'est pour ça que Schiele et Basquiat peuvent être mis côte à côte. Ce sont deux expressions très, 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 très fortes, très, très outrées. Alors après, peintre black, peinture black, je ne suis pas très confortable avec ce type d'étiquetage.
Pierre Ducreuset ?
Eh bien, j'ai l'impression que toute sa vie, il a essayé de lutter contre les cases, contre les catégories. Et maintenant, justement, on arrive, voilà, on en sort. Donc toutes ces catégories-là, d'ailleurs, on l'entend bien dans ce dialogue qui est réel, qui a vraiment existé avec ce journaliste. On l'enferme dans des cases souvent, bien sûr, racistes et dépréciatives. Et là, maintenant, on est tout simplement dans la peinture. Et une chose que j'ai abordée avant, le précurseur de notre monde contemporain, du monde en réseau, en rhizome, de ce monde Internet. C'est là, alors que il fait ça en 84, 85, bien sûr, le web n'existait pas encore. Ça, c'est une des choses, moi, que je retiens aussi.
On peut, la peinture, vous disiez, mais aussi le collage, l'assemblage, ça faisait partie de ces techniques picturales le singularisent. Il utilisait beaucoup l'acrylique et le crayon gras. Il réalisait beaucoup de collages et aussi de copier-coller, selon cette pratique qui est utilisée aujourd'hui encore en peinture. Et puis on peut parler de l'influence du graphe qu'on a peut-être déjà évoqué dans ses représentations. Hein.
C'est un grand lecteur de Burroughs, bien sûr, qui est un de ses maîtres. Et donc le cut-up de William Burroughs est une de ses grandes inspirations. Le surréalisme aussi. Il mêle tous les registres, toutes les influences, tous les genres. Il n'y a pas de haut et de bas. C'est aussi ça, sa culture pop. C'est-à-dire que voilà, la boxe est au même rang que la peinture, que Picasso. Et ça aussi, c'est extrêmement moderne.
La journaliste critique d'art Roxana Azimi et le romancier Pierre Ducreuset, auteur de Heroica, qui vient de ressortir en poche, sont nos invités jusqu'à midi et demi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Une grande table aujourd'hui autour de l'exposition Basquiat-Schiele à voir actuellement à la Fondation Louis Vuitton. La question des corps, la question du réseau, la question de la particularité de son œuvre, de ses références, de ses icônes noires que Jean-Michel Basquiat a toujours voulu évoquer, à qui il a voulu rendre hommage. Je ne sais pas si c'est tout ça qui a fait qu'il est devenu un chouchou des collectionneurs privés, peut-être plus que des musées, Roxana Azimi. Comment expliquer que, et c'est ce qu'évoquait Pierre Ducreuset en ouverture, la plupart de ses œuvres sont aujourd'hui chez des collectionneurs plutôt que dans des grands musées?
Principalement, c'est vrai que les musées n'ont pas reconnu son travail en temps et en heure. Aujourd'hui, ces prix sont beaucoup trop importants pour que les musées puissent l'acheter. Il y a une anecdote qui est assez terrible. On dit toujours que les musées français sont en retard, mais les musées américains peuvent l'être aussi. Le MoMA s'était vu proposer un très beau tableau qui figure d'ailleurs dans l'exposition à la Fondation Vuitton, en donation par un couple de collectionneurs qui était un de ses premiers collectionneurs, les Shore. Et le MoMA l'a refusé en disant que, en fait, cette œuvre n'était pas assez intéressante même pour être stockée. On revient de loin.
Ladies and gentlemen, a masterpiece by Jean-Michel Basquiat, and I'm going to start the bidding here at $57 million. $57 million. $58 million. $58 million. $59 million. $60 million. Thank you. So Yuki's bidder at $68 million, and I can sell at $68 million.
La toile va être finalement vendue, celle-ci, à 98 millions de dollars, extrait d'une vente aux enchères chez Sotheby's, une vente d'un des tableaux de Basquiat. C'était en 2017, Roxana Azimi, dans Le Monde, dans le magazine M, ce week-end, vous rappelez que Basquiat est l'un des artistes les plus chers au monde, et qu'un de ses tableaux, La Tête Bleue, et qui est l'un de ses plus célèbres crânes, a décroché le prix record de 110 millions de dollars l'an passé, toujours chez Sotheby's. Il a été acheté par un millionnaire nippon. Il y a 35 ans, la même œuvre avait été vendue pour 19 000 dollars. Une inflation, une cote qui s'envole réellement pour cet artiste aussi aujourd'hui. Hein.
Absolument. C'est un marché qui s'est totalement affolé ces dernières années. Quand on pense que Basquiat, en fait, dans les années, fin des années 80, ça valait autour de 20 000 dollars maximum. C'est vrai que le fait qu'il soit rentré très tôt dans des très grosses collections américaines prescriptrices, je vous mentionnais les Shore tout à l'heure, mais il a Ibroad aussi et beaucoup d'autres collectionneurs aux États-Unis et après dans le monde entier, fait que en fait le marché de l'art fonctionne de façon extrêmement moutonnière. Quand un artiste entre dans une collection dite prescriptrice, tout le monde en veut. Et dans le cas de Basquiat, ces dernières années, je pense ces 10 dernières années, il y a eu une vraie inflation parce que il coche toutes les bonnes cases.
Il aurait sûrement trouvé génial, Pierre Ducrozet, ce qui s'est passé ce week-end autour de l'œuvre de Banksy. À peine vendue aux enchères, l'œuvre est très très chère, l'œuvre s'est auto-détruite. Ça a été pensé comme ça par l'artiste.
Ah, une grande, grande scène. Ça, c'est vraiment le système qui se mord la queue. Bravo à Banksy. Il aurait adoré ça, ouais. Et comme je pense qu'il aurait eu un sourire assez ironique et peut-être triomphant de aussi voir le prix de ses toiles. En fait, dès le départ, dès 81-82, c'est pas du tout un artiste maudit, il est tout de suite très reconnu et adulé. Et il est pas dupe, c'est ce que je disais avant, il va jouer avec les codes du marché de l'art, il sait comment fonctionne le capitalisme, et il va s'en servir pour arriver jusqu'en haut, et là, c'est pour ça que voilà, là, au bout d'un moment, on va être devant l'évidence, c'est un maître. Mais il va s'en servir, donc il va donner de l'exotique, il va donner du sauvage, entre tout ça, entre guillemets, de l'enfant de l'art brut, pour les satisfaire, pour satisfaire leur curiosité malsaine, et ensuite renverser le système. Donc c'est pour ça que je pense qu'il aurait un petit sourire en coin en voyant ça.
On va retourner sur les pas du héros de votre dernier roman, L'invention des corps, Alvaro, qui va filer vers la Silicon Valley. Nous, on va faire de même dans la deuxième partie de l'émission. On va s'interroger sur le trans et le post-humanisme avec nos deux invités. Voyez, Pierre Ducrozet, on va rejoindre Olivier Rey, le mathématicien philosophe, et son confrère Marc Ougnadi, et qu'on essaie de tenter de comprendre s'il y reste encore un tout petit peu de place pour l'humain à travers toutes ces promesses trans et post-humanisme. Merci beaucoup à vous, Pierre Ducrozet. Je rappelle que votre roman Héroïka, paru chez Grasset en 2015, vient de ressortir en poche. Merci mille fois à vous, Roxana Azimi, d'avoir été autour de cette grande table.